Alors, comme on n'a qu'une heure devant nous, on va commencer cet entretien avec Jim C. Heinz, auteur de fantasy qu'on a un peu mieux découvert ces dernières années, même si la première traduction de sa trilogie du Gobelin était déjà un peu plus ancienne. Elle vient d'être rééditée avec le premier tome, le Graal du Gobelin. Sa deuxième série, Princesse mais pas trop, qui compte 4 volumes, est encore pour le moment indisponible, mais voilà, on espère bien qu'elle va revenir chez Milady, parce que c'était des textes alors que je n'ai pas pu lire, mais qui semblait tout à fait excellent. Et puis surtout, donc, il nous est revenu grâce à cette nouvelle série, Magie ex Libris, traduit chez La Talente par Lionel Davoust, dont 2 volumes sont parus pour le moment sur 4. C'est ça. Et la série est terminée avec 4 volumes.
Officially, maybe. Yes. My publisher in the U.S. They bought the 4 books and they said, "Okay, now it's time to do something new." So they've contracted me for a whole new series. Mm-hmm. However, there are still ideas, and I've written a short story that's set like 15 years before the books. I'm thinking of writing a long story or a short novel that would be set after the events of the 4 books, and it would probably focus more on Janita's character. She is the youngest of the Libriomancers, and she's the one who is breaking all of their rules, and they're all saying, "You can't do that," and she's saying, "But I did." So if I have... I will probably write it. I just don't know exactly when.
Okay.
Officiellement, oui. La série est terminée officiellement. Mes éditeurs aux États-Unis ont donc acheté les 4 premiers livres. Et une fois les 4 premiers livres finis, ils m'ont dit « Bon, maintenant, il est temps de faire quelque chose d'autre. » Et donc, ils m'ont fait signer un contrat pour une nouvelle série. Cependant, j'ai encore des idées. J'ai écrit une nouvelle qui se déroule 15 ans avant les événements des livres. J'aimerais écrire une longue nouvelle ou un court roman qui se situerait après les événements du 4e livre, qui se concentrerait sur Janetta. Janetta, c'est le plus jeune des bibliomanciens et qui brise toutes les règles de la bibliomancie. Les vieux bibliomanciens lui disent « Mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible. » Et elle leur répond « Bah ouais, mais sauf que je viens de le faire. » Donc, je vais probablement écrire cette histoire. La question, c'est quand ? Je sais pas.
On s'en réjouit. Alors, je vais avoir une première question qui est un peu étrange, peut-être, mais que je me pose vraiment. C'est une araignée comme animal domestique. Vraiment. Moi, je fais partie de la Société nationale des arachnophobes, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai un peu de mal à envisager une telle chose.
Oui, vraiment.
Mais comment ?
I don't like spiders either.
Vous me rassurez.
Yeah, but Titash started in the Goblin books, and I'm writing about Jig the Goblin. He lives in a cave. He is this underdog. Nobody likes goblins. Everybody just kills them on their way to the real adventure. And so if a goblin is going to have a companion, it's not going to be something noble. He's not going to have an owl or a hawk or even a hamster. He's going to have something like a spider. And so I kind of set myself a challenge when I was writing the Goblin books, is can I make a spider lovable? And to my amazement, it seems to have worked. You know, of all of the characters I've created, people love Titash. They bring me spider gifts. You know, they make little fire spiders, or I've got spider necklaces. I have one person who crocheted a spider. And so, you know, me who does not like spiders.
No, you are the spider guy.
I have this whole shelf full of spiders now. It's just, merci.
Oui, vraiment. Vous savez, j'aime pas trop les araignées non plus. En fait, Titash, à la base, se trouvait dans ma série Le Graal du Gobelin. Et donc, en fait, c'est un animal qui appartient à Jig. Jig, c'est un gobelin, il vit dans une caverne. En plus, c'est le plus détesté de tous les gobelins. Personne n'aime les gobelins. En général, les aventuriers les tuent par douzaines avant d'aller accomplir leur véritable aventure. Donc, il fallait que je voulais un compagnon pour mon gobelin, un animal familier. Mais il ne pouvait pas avoir quelque chose de noble. Il ne pouvait pas avoir une chouette, un aigle, même un hamster, c'était trop noble. Donc, le défi pour moi, c'était d'avoir de mettre cette araignée et de me dire, est-ce que je peux réussir à rendre une araignée attachante ? Et à ma grande stupéfaction, on dirait que ça a marché, puisque de tous les personnages que j'ai créés, Titash, c'est le plus populaire. Tout le monde adore Titash, ce qui fait que maintenant, on m'offre des cadeaux en forme d'araignée. J'ai un collier en forme d'araignée, on m'offre des araignées faites au crochet. Et moi, qui n'aime pas les araignées, je me retrouve maintenant avec une étagère remplie d'araignées. Donc, merci beaucoup.
Il faut dire que Titash fait le lien aussi entre la trilogie du Gobelin et Magie Ex Libris. Quel autre lien y aurait-il entre ces deux séries ? Enfin, comment en êtes-vous arrivé là ?
No, Titash is pretty much the only link. I didn't want to get carried away with trying to be clever and making more references to my own books. Mm-hmm. So I figured, Titash, I can get away with that, but that's my one indulgence. Other than that, I think the only real connection is, you know, I think they're fun. You know, when I write books, I try to write with that sense of fun, that even when you know book three gets a little darker, but there's still going to be humor. There's still going to be wonder. But yes, directly, Titash is the only connection.
Oh, moi, j'en vois d'autres, mais on va y revenir.
She sees others, but she will get back to this. Oh. To that.
Titash est quand même plus ou moins le seul lien. Je ne voulais pas me laisser emporter par cette idée, c'est-à-dire faire le malin et mettre trop de références à mes propres livres. Je me suis dit, Titash, je peux m'en tirer et accepter de mettre ça, mais c'est en gros le seul, c'est mon petit plaisir, mais c'est le seul que je fais. Et donc, il n'y a pas vraiment d'autres liens. Le seul autre lien, peut-être, c'est que c'est des livres amusants, fun. En tout cas, j'espère. C'est ce que j'écris de mes livres en essayant d'avoir ce sens de l'amusement. Même le livre 3, le troisième volume de la série Magie Ex Libris, qui est un peu plus sombre, malgré tout, il reste quand même de l'humour et puis de l'émerveillement. Mais je pense que oui, le seul lien direct qu'il y a, c'est Titash.
Alors, on est ici pour permettre au public des Imaginales et au-delà, via l'enregistrement, de découvrir un peu mieux votre œuvre, donc qui est parue en français, La Talente. Donc on va commencer par Goblin Quest, même si c'est un petit peu loin, sans doute pour vous. Ça fait déjà longtemps que vous avez écrit ce texte. Pour nous, il est assez frais dans nos mémoires. En français, c'est traduit Le Graal du Gobelin. Alors, spoiler, le Graal n'intervient pas du tout dans l'histoire. Alors, c'est la traditionnelle quête de fantasy épique, mais revue et corrigée par le point de vue d'un gobelin. Alors, pourquoi un tel héros ? C'est un peu, c'est un peu le pendant de la question araignée.
All of these books, Jim. Why?
That's it. And how?
In part, I had read another book that was told from the monster's point of view. And I thought, this is a wonderful idea. This is great. And I started reading the book, and I hated it.
Which one?
No, I'm not going to name it. But, you know, and it wasn't a bad book. It just wasn't the book I wanted to read. The author was more serious about it. They took it in a totally different direction. I never finished it. You know, I finally put it aside and said, no, you did it wrong. I'm going to write it correctly. That author still outsells me. But, you know, so that was a piece of it. Was I had seen this idea, and I wanted to do it my way. And partly, I have a lot of sympathy for underdogs and for Jig. Growing up, I was short, I was scrawny, I was one of the people who tended to get picked on a lot. You know, before I was all big and muscular like I am today. And so, you know, we see these fantasy movies, we read these books, and monsters like the goblins, they get a really raw deal. They get killed all the time by quote-unquote heroes. And so what must it be like to be a goblin and you're minding your own business? This is your home. It's like you're living in your apartment building and in comes another group and they're looking for treasure, but on the way they kill all of your neighbors. And so just writing from that perspective and trying to understand, what must it be like? How do you survive knowing that I'm a goblin? My role in the adventure is to be killed on the way to the real challenge. And it was a lot of fun to turn that around and make a goblin who was clever, who could learn and sort of flip the script.
Tous ces livres, Jim, pourquoi tu les as écrits? Alors, en partie, c'est... en fait, notamment pour la série du Gobelin, je lisais un roman où ça prenait le point de vue du monstre. Et dans un roman de fantasy où ça prenait le point de vue du monstre, et je me suis dit, quelle idée merveilleuse. Je commençais à lire le bouquin, et je l'ai détesté. Alors, je ne vous donnerai pas de nom, je ne vous dirai pas ce que c'est. Le livre n'était pas mauvais, c'est juste que ce n'était pas le livre que je voulais lire. Parce qu'il prenait vraiment un aspect assez sérieux. Il prenait une direction totalement différente que ce que moi j'aurais voulu. Je n'ai jamais fini le livre. J'ai fait non, tu as mal fait l'idée. Moi, je vais le faire bien. Bon, alors cet auteur vend toujours plus que moi. Mais bon, l'idée, c'était que je voulais vraiment prendre cette idée et la faire à ma façon. Et... c'est en partie pour le fait que j'éprouve beaucoup de compassion pour les David, des David et des Goliath, les gens sur lesquels on mise pas, les anti-héros, les Jig. Et quand j'étais petit, j'étais un peu comme Jig, j'étais un peu le gamin, j'étais pas très grand, j'étais un peu tout maigre, et puis on s'en prenait fréquemment à moi, avant que bien sûr je ne sois maintenant aussi grand et musclé que je ne le suis. Mais dans la fantasy, quand vous avez des monstres comme les gobelins, ils sont vraiment à la vie dure, ils passent leur vie à se faire tuer par des héros, entre guillemets, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que la vie d'un gobelin? Vous vivez votre vie tranquillement, vous êtes chez vous, c'est comme si vous étiez chez vous dans votre appartement, puis d'un seul coup, il y a des types qui débarquent, ils cherchent un trésor, puis en passant, ils tuent tous vos voisins. Je me suis dit, quel est le point de vue de ça? Comment on peut survivre en sachant, ben voilà, je suis un gobelin, mon boulot dans la vie, c'est de me faire tuer. C'est quand même un sacré défi. Et donc, je me suis vraiment beaucoup amusé à inverser le modèle, à avoir un gobelin qui était intelligent, qui était capable d'apprendre, et quelque part d'inverser le point de vue et de retourner totalement l'idée et la figure.
le peuple des gobelins, effectivement, a tout un tas de chansons à propos des événements historiques qu'ils ont vécus, qui invariablement se terminent par le massacre total de chacun des gobelins. Leurs grands héros, voilà, sont tous massacrés. Isaac Veynaud aussi est petit, maigrichon, la vue basse. Donc voilà, c'était un des points communs que je voyais. Vous avez effectivement ici un type de héros qui vous permet d'apporter un point de vue particulier aux aventures et incroyables qu'ils vont vivre.
Okay, yeah, I could see that as a connection. It not so much in the princess books, but yeah, Jig and Isaac from Magic Ex Libris, they're not traditional heroes. They're not the big, strong, powerful alpha male types. One of the things that I really like to write about is heroes who are clever, people who are able to use their mind to solve problems. And especially in the case of Jig, you know, he is very weak. He uses his mind because that's all he's got. Well, that and a fire spider. but, you know, I like the emphasis on thinking our way out of problems instead of relying on always fighting, always brute force, especially in this day and age, and especially in the United States. And yeah, Isaac also eventually ends up in glasses as well. You know, that's Jig and Isaac both. They have the eye problems, they end up in glasses, and it's because of an author's note I read by Janet Kagan years ago. She had a book called Hellspark, and there was a re-release that had her character on the cover, and the character had glasses. And she was writing about how amazing this was, because you never see a hero with glasses. No, we can't be heroes because we're nearsighted. Lionel and I, you will have to save us.
No problem.
Merci.
I'm here.
but just, it's a little thing, but acknowledging that there are other types of heroes, other types of people, and putting those people in the spotlights. Jig the underdog, Isaac the geek, you know, and letting him be the hero. You know, I'm tempted to just keep talking and see how long I can go before his tablet fills up.
Never does. A challenge.
OK, oui, c'est vrai qu'on peut voir ce lien-là. Alors, pas tellement avec les livres sur Princesse mais pas trop, mais c'est vrai que dans le cas de Isaac comme de Jig, effectivement, tous les deux ne sont pas des héros traditionnels, ce n'est pas des types grands et forts et puissants, en gros le cliché du mal alpha. J'aime plutôt écrire sur des héros qui sont intelligents, qui sont malins, qui sont capables d'utiliser leur esprit pour résoudre des problèmes. Surtout dans le cas de Jig, il est extrêmement faible, il utilise sa tête parce que c'est tout ce qu'il a. Ça et puis une araignée flamme aussi. Mais j'aime mettre l'accent sur les gens qui réfléchissent pour résoudre des problèmes plutôt que d'utiliser la force brute pour y arriver. Et je pense que c'est particulièrement intéressant, spécialement en cette époque et spécialement aux États-Unis. Alors Isaac aussi finit avec des lunettes. Et en fait, Jig et Isaac ont tous les deux des problèmes d'yeux. Ils portent tous les deux des lunettes. Et en fait, je pense que ça remonte à un billet écrit par l'auteur Janet Kagan, qui avait écrit un livre qui s'appelle Hellspark. Et en fait, quand il a été réimprimé, sur la couverture, son personnage avait des lunettes. Et elle disait à quel point elle trouvait ça absolument épatant et génial, parce qu'on ne voit jamais un héros avec des lunettes. Et c'est vrai qu'un héros avec des lunettes, en général, on imagine que ce n'est pas possible. Par exemple, nous deux, nous sommes myopes, donc on ne peut pas être des héros. Donc Anne, il faudra que ce soit vous qui sauviez le monde à notre place. Mais c'est vrai que voilà, j'aime l'idée de mettre d'autres types de personnes sous les projecteurs. Jig, vraiment le plus bas dans l'échelle des gobelins, Isaac, le geek, faire en sorte que voilà, ce soit eux qui soient des héros.
With glasses.
Ah. Et Anne va maintenant sauver le monde avec des lunettes.
Bon, elles me font mal aux yeux. pour continuer sur le gobelin, c'est donc du coup ça retourne du Donjons et Dragons avec effectivement les grands en prennent pour leur grade, prince guerrier, magicien, sans parler du nécroman et même du dragon. Donc, on a vraiment une structure de donjon crawling, comme on le dit aussi en français. J'aime beaucoup vos vues sur la réécriture, hein, ce que vous écrivez sur votre blog, sur l'importance du retelling, enfin du fait de redire les histoires, hein, enfin du fait que chaque histoire est une réécriture d'une histoire précédente. Ça aussi, c'est quelque chose qui est transversal à tous vos travaux. Donc, je vous donne à réfléchir.
Good question. I have to think for a minute.
C'est une excellente question. Il faut que je réfléchisse une minute.
I, in many ways, books don't exist in isolation. They are always part of a larger context and a larger conversation. We talk online sometimes too. You know, I've seen complaints from people. I hate it when books are political. And it's the same thing. All books are political. All books are written within a certain cultural context, within your framework, your assumptions, your history, your background. And so everything we write is a reflection on those other stories that we've heard. They all influence each other. Sometimes we do it much more directly. Goblin Quest is, yes, it is a direct response to Dungeons and Dragons and Lord of the Rings and a lot of our very traditional fantasy stories. The Princess series, very direct response to the fairy tales and to the Disney movies. And, oh, God, the Disney movies. And even things like when I read Hans Christian Andersen, The Little Mermaid, for the first time, and I finished the story, and I said, oh, hell no, that I have to write a response to this now. But it feels, writing to me feels like being part of this very large conversation that has been going on for hundreds of years and will go on for hundreds of years after I'm dead. Not for a long time, but, and I enjoy it. I like being part of the conversation. I am arrogant enough to think I have a few things to say and to contribute. And it's just a marvelous thing, being able to, here is my piece, and then read, how are other people responding? What's your contribution? Which then gets me thinking and maybe inspires the next book.
À bien des titres, je pense que les livres n'existent pas dans un vide. Aucun livre n'est une île. Ils font toujours partie d'un contexte plus large. Ils s'insèrent dans une conversation plus grande, plus vaste. Et même, bon, parfois, quand on discute en ligne, on voit des gens qui disent « Ah, je déteste quand un livre est politique ». Mais tous les livres sont politiques. Tous les livres proviennent d'un certain contexte, sont écrits dans un certain cadre, dans un certain contexte historique, avec le passif de l'auteur et dans son contexte à lui. Et je pense que pour moi, toute histoire est une réflexion sur les autres histoires qu'on a entendues et on s'influence tous les uns les autres. Parfois, c'est très direct. Dans le cas de mes livres sur les gobelins, c'est vrai que c'est une réponse très directe au Seigneur des Anneaux, à Donjons et Dragons, à toutes nos histoires, à tout notre corpus traditionnel de la fantasy. Dans le cas de mes histoires sur les princesses, c'est effectivement une réponse directe aux contes de fées et aux films par Disney. Ah mon Dieu, les films par Disney. Quand j'ai lu La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, j'ai fini l'histoire et je me suis dit « Ah non, sérieusement, il faut que je réagisse à ça, quoi. » Donc, voilà, j'ai la sensation de faire partie d'une conversation plus vaste, conversation qui a duré depuis des siècles, qui continuera à durer des siècles après ma mort, qui, j'espère, arrivera le plus tard possible. Et je prends beaucoup de plaisir à faire partie de cette conversation. Je crains d'être suffisamment arrogant pour avoir l'impression que je pourrais peut-être avoir quelque chose à dire ou à contribuer dans cette conversation. En tout cas, c'est merveilleux de voir comment les gens vont réagir, les lecteurs, mais aussi les autres écrivains, et voir les contributions, les prochaines choses qui viendront en réaction à ce que moi j'ai fait derrière. Et ça, en retour, peut-être ça inspirera un livre futur de mon côté.
Cet aspect de conversation entre un nombre de lecteurs hein, qui partagent la même culture et qui ont envie d'échanger des parties, des récits qu'ils ont préférés, c'est quelque chose qui est particulièrement présent dans notre communauté, celle d'amateurs d'imaginaire. Vous êtes effectivement aussi très actif en ligne sur votre blog, votre site. Vous vous sentez comme ça partie prenante d'une communauté hein, de l'imaginaire ?
An integral part, me, no. There are fandom and science fiction and fantasy are so much bigger. I love being a part of it. But if I wasn't there, I think it would do just fine without me. There are a lot of very powerful voices, both writers and fans, doing what we do, talking about books, talking about stories, arguing about them, trying to make them better, trying to share what we're passionate about. I am fortunate enough to have a platform that, as an author, as someone who's been relatively successful, I have more people who will listen to me, which is nice. And at the same time, in a lot of these conversations, you know, I have opinions, I have things I want to say, and in the back of my mind, I'm thinking, does the world really need another opinion piece by a straight white man? And so another aspect of that conversation, I think, is trying to say, okay, thank you for coming to listen to me. This is great. Here are some other people to listen to. Here are some other voices. Here are some other stories. Yes, please buy my books, but don't just by those. So trying to broaden fandom, I think one of the more important things that I can do in my role is to try to broaden fandom, to make it larger, to bring more people into it on all levels.
Est-ce que j'en fais partie intégrante ? Non. Est-ce qu'on fait une partie intégrante ? Non, je ne pense pas. J'appartiens au fond de la communauté de la science-fiction, de la fantasy, de l'imaginaire, mais il est tellement vaste, j'apprécie d'en faire partie, mais si je n'étais pas là, il s'en tirait extrêmement bien sans moi. Il y a beaucoup de voix très puissantes, des écrivains, des fans, qui font ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire on parle des livres, on parle des histoires, des fois on se dispute à leur sujet, mais tout ça c'est pour essayer de les rendre meilleurs et c'est de partager la passion. J'ai la chance, comme je suis auteur, d'avoir une plateforme où je peux m'exprimer, et ça signifie peut-être que davantage de personnes m'écouteront, ce pourquoi je suis très reconnaissant, mais à chaque fois que je suis prêt et que je vais exprimer mon opinion, il y a toujours une petite voix à l'arrière de ma tête qui me dit, est-ce que le monde a besoin d'un billet supplémentaire, un billet d'humeur supplémentaire écrit par un homme blanc homosexuel, hétérosexuel de plus. Et c'est un autre aspect. Quand les gens viennent me voir, je leur dis merci d'être venu me voir. C'est très gentil, mais voilà, il y a d'autres personnes intéressantes qu'il faut écouter, qui écrivent des histoires merveilleuses. Donc, s'il vous plaît, oui, bien sûr, achetez mes livres, mais pas que les miens. Et je voudrais m'efforcer peut-être d'élargir le fandom. Je pense que c'est une des choses les plus importantes que je puisse faire. C'est tout simplement d'élargir la communauté et d'y amener plus de monde, d'élargir ses horizons à tous les niveaux.
C'est ce que vous faites dans Magie Ex Libris, hein, qui est en partie une mise en fiction de cet amour pour les livres, de cet amour pour la littérature, de l'imaginaire et de cette volonté d'attirer l'attention sur un certain nombre de choses qui vont bien ou qui vont moins bien au sein de ces littératures. Donc, c'est l'histoire d'un bibliothécaire magicien. Il est membre de, comment vous dites ça, the old German, du vieil allemand.
German, I don't know how to pronounce it.
Ah ben non alors, c'est vous l'auteur.
Die Zwölfput.
Bon, donc il est membre d'une organisation au nom imprononçable. Vous nous présentez un peu plus cette idée?
The society, it was founded by Johannes Gutenberg hundreds of years ago. So I spent a lot of time researching in I think it's Middle High German. What would be the exact translation for the 12 doorkeepers? And I came up with something unpronounceable. But in the beginning, when Gutenberg first created this magic, the magic of Libriomancy, they were reaching into books, they were pulling things out, and there was something else in there that every once in a while they would reach into the books and touch something cold and dark and evil that was trying to get out. And so Gutenberg founded this group to stop that from happening. When they talk about gatekeepers or doorkeepers, it was, we are keeping this closed. I don't know what this is, but I don't want it. It's going to stay where it is. Our job is to keep this from getting through. So naturally, as the books go through, it gets out and all hell breaks loose. But Gutenberg, when he founded this magic, when he founded this society, it made him a very interesting character because he's still alive in Libriomancer. And he's spent all of these centuries using this magic, but also trying to protect the world. And he has a very different perspective on life, on people, on what's important. In some ways, it's made him very noble. And in some ways, it's made him a total asshole. Because he's seen so much. He's seen how this magic can help, but he's seen how dangerous it is. You know, and he watches as, you know, he invented the printing press, and yay, now we can have dozens or even hundreds of books. And what happens is Libriomancy is based on how many readers are able to read that book. So as we progress into the more modern age, and printing takes off, Libriomancy becomes so much more powerful. You know, it has overwhelmed other forms of magic because we have so many books and so many copies and so many readers. And so it gets more dangerous, and he's taking on more responsibility and trying to balance magic is great, but human beings, not so much. They will blow up the world. How do I protect these short-lived, stupid humans from killing themselves while also protecting the world from whatever is on the other side? I may have strayed a little bit from your question there, but I love Gutenberg's character, so I tend to ramble.
Alors, cette société secrète a été fondée par Gutenberg il y a des siècles. J'ai passé beaucoup de temps à chercher comment appeler cette société, donc c'est du moyen au allemand précoce. J'ai cherché comment on pouvait dire les 12 gardiens des portes et je suis donc arrivé à un résultat parfaitement imprononçable. Alors Gutenberg est l'inventeur de cette magie, de cette bibliomancie, où l'idée c'est qu'on peut plonger dans des livres et en sortir des choses. Mais au fur et à mesure que les bibliomanciens ont plongé dans ces livres pour en sortir des choses, de temps en temps ils touchaient quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de sombre, de maléfique. Et donc il a fondé ce groupe pour empêcher cette chose-là de sortir. Donc les 12 gardiens des portes, justement, l'idée c'est de fermer les portes à cette chose-là. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'en veut pas. Et puis naturellement, au fur et à mesure des livres, cette chose-là finit par se libérer et puis tout dérive vers la catastrophe. Mais pour moi, voilà, le personnage de Gutenberg est très intéressant. Il est toujours en vie quand la série commence. Il a passé tant de siècles à employer cette magie, à essayer de protéger le monde. Et en fait, du coup, ça lui donne une perspective assez différente sur la vie, sur les gens et sur les choses qui comptent. Par certains aspects, ça le rend très noble. Et par certains aspects, ça en ferait, en anglais dans le texte, un véritable trou du cul. Il a vu tellement de choses. Il a vu à tel point comment cette magie peut aider les gens et à quel point elle peut être dangereuse aussi. Au moment où il invente la presse à imprimer, on commence à avoir des livres en douzaines d'exemplaires, puis en centaines d'exemplaires. Et le truc, c'est que la bibliomancie se base sur le nombre de lecteurs qu'on a du même texte, de la même édition du même texte. Et au fur et à mesure, donc, l'histoire progresse, on se retrouve à l'âge moderne, la presse à imprimer, l'imprimerie explose, et du coup, en conséquence, la bibliomancie en puissance explose aussi, à tel point qu'elle écrase et qu'elle domine toutes les autres formes de magie. Donc on a énormément de livres aujourd'hui, on a énormément de lecteurs, et donc ça rend cette magie d'autant plus dangereuse, ce qui fait que ça augmente d'autant plus ses responsabilités de façon à essayer de trouver un équilibre entre cette magie et puis les inclinations naturelles des êtres humains qui, si on les laissait faire, feraient sauter la planète. Il se trouve forcé de protéger ces êtres humains qui ont, en comparaison de lui, une espérance de vie extrêmement courte et qui sont peut-être extrêmement stupides. Et essayer de faire en sorte aussi que cette chose qui se trouve de l'autre côté ne fasse pas irruption dans notre monde. Je suis désolé d'être un peu erré, loin de la question, mais j'aime beaucoup le personnage de Gutenberg.
Le concept de la bibliomancie, c'est vraiment génial. C'est un rêve de lecteur, c'est un rêve de geek. C'est l'idée qu'on peut avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur des livres. Donc non seulement c'est un concept que je trouve génial, et en plus il est vraiment exploité de manière extrêmement ingénieuse, avec une débauche d'idées qui en découle, et effectivement dès qu'on y réfléchit un petit peu, ça ouvre des perspectives absolument hallucinantes. Je lis un tout petit extrait parce que il faut quand même faire entendre la voix de l'auteur et de son traducteur dans ces cafés où on a un peu plus le temps. J'avais plusieurs extraits, mais le temps passe, je n'en lirai qu'un. C'est sur le roman Belle de Robin McKinley qui est régulièrement utilisé dans Magic Ex Libris, et vous allez voir pourquoi. La bibliothèque magique de la bête dans Belle contenait un exemplaire de chaque livre jamais écrit. En plongeant la main dans l'histoire, je me suis pris à réfléchir aux implications d'un tel concept. La bête passait-elle son temps à lire des réécritures modernes des contes ? Que penserait-elle des romans érotiques modernes, comme 50 nuances de Grey ? Avait-elle découvert son propre récit, Et quelle sorte de paradoxe magique entraînerais-je si je me servais de cet exemplaire-là pour en créer un autre de belle ? Bon sang, ça n'était pas le moment pour les expériences. Je me suis concentrée sur le livre que je cherchais et j'ai tiré les nymphes de Neptune d'entre les pages. Je vais repartir de cet exemple-là, les nymphes de Neptune. Alors ça, c'est un livre inventé. C'est un des rares livres inventés. Alors, à la fin des livres, il y a une bibliographie hein, où G. Mainz nous rappelle tous les titres qu'il a utilisés. Alors, un certain nombre d'entre eux ne sont pas forcément très connus des lecteurs français. Donc, c'est assez utile. Il nous indique avec une astérisque ceux qui sont inventés ou non. Et Les Nymphes de Neptune, hein, qui est un roman particulièrement désagréable, en fait partie. C'est de là qu'est issu le personnage de Léna. Voilà, dont je tenais à parler durant ce café, qui est un personnage donc qui est écrit. Elle est un personnage qui sort d'un roman, et donc voilà, ça pose vraiment la question de son libre arbitre, de dans quelle mesure est-on écrit.
For the character of Léna, we talked earlier about literature as conversation. Léna is very much a part of that, and it was a conversation about how we write women characters that very often. Our genre has not treated women well. We have not given them their own stories. We have not, and we have done the same thing with women writers. But women characters very often exist as a trophy for the hero. You know, your job is to save the world and to win the woman. And if you save the world, then this is your reward. And, well, did anyone ask if she wanted to be a reward? Other times, the woman is there to motivate our male hero. It's the women in refrigerators trope in comics, where we will kill the woman because it will make the man go off and do things. It will motivate him. And just that idea that, you know, maybe women should get to be their own characters, be their own people, have their own stories. And there is some reflection, a lot of reflection of that in real life. The expectations of men versus the expectations of women. And I'll speak to America because that's safer for me. But where there's the assumption if two people get married, well, the woman changes her name to the man's name. If only one person is going to work, it will be the man who goes out and has the job, and the woman stays home to support him. And I could ramble about this for a long time. I will try not to. So coming back to Léna, it was a made-up book because I didn't want to criticize anyone directly in that way, and because her character and her book is such a large part of the story, that felt like it could get into copying or cheating. But in her book, she is that character who is there for the men. She is subservient. She is someone who her personality changes to be a better fit for her man, for her lover. And it's disgusting. It is sexist and horrible. But we have written books like this. We have written characters like this. And so then bringing her out of the book into the real world, which normally you can't do with Libriomancy, but Léna is a hamadryad, and so they brought an acorn and somebody planted it, and the tree grew, and she emerged. And her nature in the beginning is to be subservient, to become what her lover wants her to be. And this is... it's not good. And eventually, she meets and falls in love with a woman who... this woman's fantasy is a superhero, a kick-ass, fighting, independent woman. And so that's what Lena becomes, which creates this whole question of, so now you have this strong, powerful, independent character who is all of these things because of her lover. And just struggling through the books to portray Lena respectfully, to show her struggle to become her own character, to truly become her own person. It was a very important part of the books for me. It was a very difficult part because it was so easy to do wrong. And I'm not saying I did it perfectly, but you know, I tried very hard to treat Lena with respect and also to take a very honest look at this is how we treat characters. This is how we treat women in many circumstances. This is how society shapes us, just like Lena is shaped by her lover. It's a metaphor.
Alors, concernant le personnage de Lena, tout à l'heure, je parlais de la littérature aussi vue comme une conversation, et Lena est une partie très importante de cet aspect-là. Et cette conversation traite sur la façon dont nous écrivons et nous traitons les personnages féminins. Et il faut admettre que nos genres, science-fiction et fantasy, n'ont très souvent traité mal les personnages féminins. Pendant très longtemps, on ne leur a pas, et ce n'est pas encore beaucoup le cas, on ne leur a pas donné leurs propres histoires. Il en va de même pour les auteurs femmes. Très fréquemment, les femmes sont considérées comme un trophée pour le héros. Tu vas sauver le monde et tu vas gagner la femme. Ce sera ta récompense. Est-ce que quelqu'un a jamais demandé à la dame en question si elle était d'accord ? Ou dans d'autres cas, on les utilise juste comme motivation pour le héros mâle. C'est le trope de la femme dans le frigidaire. On va tuer la femme, comme ça va motiver le héros. Et on ne les a jamais laissé être leur propre personnage, on ne les a jamais laissé vivre leurs propres histoires. Et malheureusement, hélas, je crois que simplement ça reflète notre société et la vie réelle quant aux attentes dont on traite les hommes et les femmes. Alors, je vais parler pour les États-Unis parce que c'est ce que je connais et c'est plus sûr. Mais par exemple, il y a tout un tas d'attentes quand deux personnes, un homme et une femme, se marient. Il y a certaines attentes et parti pris quant à celui qui va travailler, celui qui va rester à la maison. S'il y en a un qui doit aller travailler, pour les gens, ça doit être l'homme et c'est doit être la femme qui doit rester à la maison pour le soutenir. Bon, je vais éviter de trop divaguer sur le sujet parce que je pourrais aller très loin, mais pour revenir au personnage de Lena, je l'ai fait sortir d'un livre fictif dans le contexte du roman parce que je ne voulais pas critiquer un livre en particulier. Et puis surtout que comme ça occupe vraiment une part très importante du récit, je me suis dit que ce serait une forme de tricher si je prenais un livre qui existait déjà ou une forme de plagiat. Mais l'idée, c'est que dans son propre livre, en fait, ce personnage n'existe que par rapport aux hommes. Son personnage est extrêmement soumis. En fait, l'idée, c'est qu'elle est vraiment justement une forme de trophée, puisque sa personnalité change pour s'adapter à la personnalité et au désir de son compagnon. Ce qui est une idée absolument répugnante, qui est sexiste, qui est horrible. Et la tristesse, c'est que dans le genre, nous avons écrit des livres et des personnages qui fonctionnaient de cette façon-là. Et donc, elle sort dans le monde réel, dans le récit, ce qui est normalement quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la bibliomancie. Mais en l'occurrence, c'est une hamadryade. Donc, en fait, on sort du livre, on a sorti le gland de son arbre qui a été planté, l'arbre a poussé, et du coup, en fait, elle a émergé. Au début du livre, elle a effectivement cette nature extrêmement soumise. Elle est ce que son compagnon veut qu'elle soit, ce qui est quelque chose d'atroce. Et au fil de l'histoire et de son histoire, elle finit par tomber amoureuse d'une femme dont le fantasme, c'est justement la figure de la super-héroïne. C'est donc ces femmes fortes qui sont badass, qui sont indépendantes. Et c'est ce que Lena devient. Et donc, du coup, il vient toute une question sur le fait qu'on a donc ce personnage qui devient fort, indépendant, puissant, mais tout ça simplement parce que, encore une fois, ça reflète les désirs de sa compagne. Et en fait, grande partie du fil narratif de Lena parle de la façon dont on peut du respect qu'on lui doit et de la façon dont on peut le traiter avec respect et de toute sa lutte et de son parcours pour devenir son propre personnage, pour s'appartenir réellement. Et c'était pour moi une partie vraiment, vraiment importante du livre. C'est quelque chose que c'était extrêmement difficile à faire parce que je pouvais très facilement me planter. Je ne me dis pas que je l'ai fait ça de façon particulière, mais je me suis efforcé au maximum de traiter ce personnage avec respect et vraiment m'efforcer d'être le plus honnête possible dont j'étais capable sur le traitement qu'on accorde aux personnages féminins, aux femmes, dans nos genres, dans nos littératures, puisque aussi, à bien des titres, les récits et ces circonstances-là nous façonnent aussi et façonnent notre esprit. Voilà, bref, en un mot commençant, c'était une métaphore.
Donc voilà, Magie Ex Libris, c'est à la fois des romans très très drôles, plein de rebondissements, de péripéties incroyables, et puis des romans qui réhabilitent l'intelligence, le goût des lectures geeks et qui dégomment les stéréotypes de genre en permettant à son héroïne de se réécrire littéralement au fil du texte. Pour terminer, c'est votre première visite en France?
I came once to Paris 25 years ago on a high school trip, but that was a long time ago. And this is my first time getting outside of Paris.
So et alors le contact avec les lecteurs français pour le moment à part que je vous pose des questions compliquées.
C'est ma première fois pour moi que je viens. Enfin, c'est pas la première fois. J'étais venu une première fois à Paris, c'était il y a 25 ans. C'était pour un voyage au lycée, donc ça fait vraiment très longtemps. Mais c'est la première fois que je vais hors de Paris.
So how was the contact with the readers so far here? It has been wonderful. Je t'aime. I'm having a wonderful time.
Thank you. Merci à tous.